Chapitre 13. La force d'une idée fixe est puissante. Dans le cas de Cévola, elle le fut assez pour le faire se précipiter jusqu'au bas de la pente et se départir alors de toute précaution. Il s'élança parmi les rochers en se servant du manche de la fourche comme appui. Il ne prit garde à la nature du terrain que lorsqu'ayant buté, il se trouva étalé de tout son long, face contre terre, cependant que la fourche le précédait bruyamment jusqu'à ce qu'elle fût arrêtée par un buisson. Cette circonstance évita au prisonnier de Pérol d'être pris à l'improviste. Depuis qu'il était sorti de la petite cabine, simplement parce qu'une fois revenu à lui, il s'était aperçu que la porte en était ouverte, Simon s'était trouvé ranimé par toute l'eau froide qu'il avait bue et par son petit somme en plein air. Il se sentait de plus en plus maître de ses mouvements, et la maîtrise de ses pensées lui revenait aussi rapidement. L'avantage de posséder un crâne fort épais devint évident lorsque, s'étant traîné hors de la cabine, il put reconnaître où il était. Son premier mouvement fut ensuite de regarder la lune pour évaluer à peu près l'heure. Après quoi, il manifesta une immense surprise de se voir seul à bord de la tartane. Ainsi, les jambes pendantes au-dessus de la cale, il essayait de deviner comment il se pouvait que la cabine fût restée sans verrou ni gardien. Il continuait à réfléchir à cette situation inattendue. Que pouvait bien être devenu ce scélérat à tête blanche? Se dissimulait-il quelque part, en attendant une occasion de lui asséner un autre coup sur la tête? Simon se sentit tout à coup très peu en sûreté sur le pont arrière, dans la pleine clarté de la lune. L'instinct, plutôt que la raison, lui suggéra de descendre dans la cale obscure. Ce fut d'abord toute une affaire, mais une fois qu'il y fut décidé, il l'accomplit avec la plus grande facilité, sans pouvoir éviter toutefois de faire tomber un bout d'espoir resté sur le pont. La chose le précéda dans la cale avec un bruit retentissant qui donna des palpitations au pauvre Simons. Il s'assit sur la carlingue de la tartane et reprit haleine. « Je me demande où est le navire maintenant » pensa-t-il tristement, en sentant son dégoût de la captivité s'accroître à mesure que les forces lui revenaient. C'est alors qu'il entendit le bruit de la chute de Cévola. Cela lui sembla assez rapproché, mais ensuite, il n'entendit ni voix ni bruit de pas annonçant l'approche d'un peloton. Si c'était ce vieux gredin qui revenait, alors il revenait seul. Aussitôt, Simon se dirigea à quatre pattes vers l'avant de la tartane. Il avait l'idée qu'une fois caché sous le pont avant, il serait en meilleure posture pour parlementer avec l'ennemi, et que peut-être il trouverait là un anspect ou quelques bouts de fer pour se défendre. Au moment même où il venait d'atteindre sa cachette, Cévola mettait le pied sur le gaillard d'arrière. Du premier coup d'œil, Simons vit que cet homme ne ressemblait guère à celui qu'il s'attendait à voir. Il en fut quelque peu déçu. Comme Cévola se tenait immobile dans la clarté de la pleine lune, Simons se félicita d'avoir été se poster sous le gaillard d'avant. Cet homme barbu avait l'air d'un moineau en comparaison de l'autre, mais il avait une arme dangereuse, quelque chose qui sembla à Simons être un trident ou un fouet au bout d'un manche. « C'est une sacrée arme, » pensa-t-il épouvanté. « Et que diable celui-là venait-il faire à bord? Que venait-il y chercher ?» Après être resté parfaitement immobile, à tendre l'oreille au moindre bruit qui pourrait venir d'en bas, où il supposait que se trouvait le lieutenant Réal, Cévola se pencha sur le panneau de la cabine et appela à voix basse « Êtes-vous là, lieutenant ?» Simon suivit ses mouvements sans pouvoir imaginer leur intention. Cet excellent marin qui avait fait ses preuves dans plus d'une dangereuse expédition en eut une sueur froide. À la clarté de la lune, les dents de cette fourche polie par l'usage étincelaient comme de l'argent, et cet intrus avait l'air extrêmement singulier et dangereux. À qui cet homme en avait-il, sinon à lui-même? Cévola, ne recevant pas de réponse, resta un moment accroupi. Il ne pouvait distinguer aucun bruit de respiration. Il conserva cette position si longtemps que Simon se murmura à lui-même « Il pense probablement que je suis encore en bas ». Ce qui se passa ensuite fut tout à fait surprenant. L'homme, après s'être placé d'un côté du panneau tout en tenant son horrible engin comme si c'eût été une pique d'abordage, poussa un cri terrible et se mit à hurler en français avec une telle volubilité qu'il en effraya véritablement Simons. Il s'arrêta brusquement, s'écarta du panneau et sembla se demander ce qu'il allait bien pouvoir faire. Si l'on avait vu alors la tête que Simons avança et dont le visage était tourné vers l'arrière de la tartane, on y aurait vu une expression d'horreur. « Le rusé animal » pensa-t-il. « Si j'avais été en bas, avec le bruit qu'il a fait, je serais sûrement sorti sur le pont, et alors il m'aurait fait mon affaire. » Simons eut le sentiment qu'il l'avait échappé belle. Mais cela ne le soulageait guère. Ce n'était qu'une question de temps. Les intentions homicides de cet homme étaient évidentes. Il ne tarderait sûrement pas à venir à l'avant. Simons le vit bouger, et il pensa « Le voilà qui vient !» Et il se prépara à l'attaque. « Si je peux éviter ces sacrées dents, je réussirai peut-être à le prendre à la gorge, » se disait-il, sans toutefois éprouver grande confiance en soi. Mais, à son grand soulagement, il vit que ses volas voulaient seulement dissimuler la fourche dans la cale, de façon que le manche atteignit juste le bord du gaillard d'arrière. De cette façon, quelqu'un qui viendrait du rivage ne pourrait la voir. Ses volas s'étaient convaincus que le lieutenant n'était pas à bord de la tartane. Il avait dû aller se promener le long du rivage et reviendrait probablement dans un moment. En attendant, il décida d'aller voir s'il ne pourrait pas découvrir quelque chose de compromettant dans la cabine. Il ne prit pas la fourche avec lui pour descendre, car elle lui eût été inutile et plus embarrassante qu'autre chose dans cet endroit exigu, au cas où le lieutenant le trouverait là à son retour. Il jeta un regard circulaire tout autour du bassin et s'apprêta à descendre. Aucun de ses mouvements n'avait échappé à Simons. Il devina l'intention de ses volas et pensa « C'est ma seule chance. Il n'y a en tout cas pas une minute à perdre. » Aussitôt que ses volas eut tourné le dos à l'avant de la tartane pour descendre la petite échelle de la cabine, Simons sortit en rampant de sa cachette. Il traversa la cale à quatre pattes, de peur que l'autre ne tournât la tête avant de disparaître en bas, mais dès qu'il eut jugé que l'homme avait mis pied au fond, il se leva et, s'accrochant au hauban, se lança sur le gaillard d'arrière et, du même mouvement pour ainsi dire, se jeta sur la porte de la cabine qui se referma bruyamment. Comment assurer cette porte? Il n'y avait pas pensé, mais il vit le cadenas qui pendait à la gâche d'un côté. La clé s'y trouvait, et il fallut moins d'une seconde pour que la porte fût solidement fermée. Presque en même temps que ce bruit de porte, on entendit un cri perçant de surprise sortir de la cabine. À peine Simons eut-il tourné la clé que l'homme pris au piège fit un effort pour enfoncer la porte. Cela, à vrai dire, ne troubla guère Simons. Il connaissait la solidité de cette porte. Son premier mouvement fut de s'emparer de la fourche. Il se sentit dès lors en état de tenir tête à un seul homme, ou même à deux, à moins qu'ils n'eussent des armes à feu. Il n'avait toutefois aucun espoir de pouvoir résister aux soldats, et véritablement il n'en avait pas l'intention. Il s'attendait à les voir apparaître d'un moment à l'autre, conduits par ce maudit marinero. Quant à ce que ce fermier était venu faire à bord de la tartane, il n'avait pas le moindre doute à cet égard. Dépourvu comme il l'était de beaucoup d'imagination, il lui semblait évident que c'était pour tuer un Anglais tout simplement. « Eh bien, me voilà sauvé !» s'écria-t-il intérieurement. « Quel satané sauvage! Je ne lui avais rien fait. Ils ont l'air joliment dangereux par ici. » Il regardait avec anxiété du côté de la falaise. Il eût accueilli avec plaisir l'arrivée des soldats. Plus que jamais, il tenait à être fait prisonnier dans les règles. Mais un profond silence régnait sur le rivage, un silence plus absolu encore, en bas dans la cabine. Absolu. Ni un mot, ni un mouvement. Un silence de mort. « Il est terrifié, » pensa Simons, dont la simplicité d'esprit voyait juste. « Il n'aurait que ce qu'il mérite si je descendais le transpercer avec cette affaire-là. Je le ferais volontiers. » La colère le prenait. Il se rappela aussi qu'il y avait du vin en bas. Il s'aperçut qu'il avait très soif et il se sentait très faible. Il s'assit sur la petite claire-voie pour réfléchir en attendant les soldats. Il pensa même amicalement à Pérol. Il savait bien qu'il lui était possible d'aller à terre se cacher quelque temps, mais au bout du compte, on lui donnerait la chasse parmi les rochers et il serait certainement repris et courrait en outre le risque de recevoir une balle à travers le corps. Le premier coup de canon de l'Amélia le mit sur pied comme si on l'avait soulevé par les cheveux. Il essaya de pousser un hurrah de toutes ses forces, mais ne tira de sa gorge qu'un faible murmure. C'était son navire qui lui parlait. On ne l'avait donc pas abandonné. Au second coup de canon, il se précipita à terre avec l'agilité d'un chat, en fait avec tant d'agilité qu'il en demeura d'abord étourdi. Quand il se fut ressaisi, il retourna à bord de la tartane prendre la fourche, puis, tout tremblant d'émotion, il s'éloigna en titubant, lentement mais résolument, avec l'intention de descendre jusqu'au rivage. Il savait que tant qu'il descendrait, cela irait. À cet endroit, le terrain était rocheux et lisse, et Simon, s'étant nu-pied, passa à peu de distance de Pérol sans que celui-ci l'entendît. Quand le terrain devint rocailleux, il se servit de la fourche comme appui. Si lentement qu'il alla, il n'avait pas assez de force pour avoir le pied très sûr. 10 minutes plus tard, à peu près, Pérol, dissimulé derrière un buisson, entendit le bruit d'une pierre qui roulait au loin dans la direction de la crique. Il se leva aussitôt et se dirigea, lui aussi, vers la crique. Peut-être aurait-il souri si l'importance et la gravité de l'affaire où il était engagé n'avaient donné à toutes ses pensées un tour sérieux. Suivant un sentier plus élevé que celui qu'avait pris Simons, il eut alors la satisfaction d'apercevoir le fugitif, reconnaissable au bandage blanc de sa tête, qui achevait la dernière partie de sa descente. Une nourrice n'aurait pas contemplé l'aventure d'un petit enfant avec plus d'anxiété que Pérol ne surveillait la marche de son ancien prisonnier. Il vit avec plaisir qu'il avait eu l'intelligence de prendre pour s'aider ce qui ressemblait à la gaffe de la tartane. Au fur et à mesure que descendait la silhouette de Simons, Pérol s'avança pas à pas jusqu'à ce que d'en haut, il le vit assis sur le rivage, l'air exténué, tenant entre ses mains sa tête bandée. Pérol s'assit lui aussi, abrité par l'avancée d'un rocher, et pendant une demi-heure, on n'entendit aucun bruit, on ne vit rien remuer sur la pointe déserte de la presqu'île. Pérol n'avait aucun doute sur ce qui allait se passer. Il était aussi certain que le canot ou les canots de la corvette se dirigeaient maintenant vers la crique que s'il les avait vus quitter le bord de l'Amélia. Mais il en éprouvait quelque impatience. Il voulait voir la fin de cet épisode. Il observait Simons. Sacrée tête dure, pensait-il. Il s'est endormi. L'immobilité de Simons était si complète qu'on aurait pu le croire mort de fatigue. Mais Pérol avait la conviction que son ancien camarade de jeunesse n'était pas de ces gens qui meurent facilement. L'endroit de la crique qu'il avait atteint remplissait parfaitement le dessein de Pérol. Mais un canot ou des canots pouvaient très facilement n'y pas découvrir Simons, auquel cas plusieurs détachements débarqueraient pour aller à sa recherche, découvriraient la tartane. Pérol frissonna. Tout à coup, il aperçut un canot à la pointe est de la crique. M. Bolt avait rasé la côte en s'avançant très lentement, conformément aux instructions qu'on lui avait données, jusqu'à ce qu'il eût atteint l'extrémité de l'ombre de la pointe qui se découpait toute noire sur l'eau éclairée par la lune. Pérol pouvait voir les avirons monter et descendre. Puis il vit déboucher un autre canot. L'inquiétude de Pérol pour sa tartane devint intolérable. « Mais secoue-toi donc, animal, secoue-toi donc » marmottait-il entre ses dents. Les canots glissaient lentement, et le premier d'entre eux était sur le point de dépasser l'homme assis sur le rivage, lorsque Pérol se sentit soulagé en entendant un cri de « Oh, du canot !» qui lui arriva affaibli à l'endroit où, passionnément intéressé, à genoux, il se penchait comme un spectateur. Il vit l'embarcation se diriger vers Simons, qui s'était levé et faisait avec ses bras des signes désespérés. Puis il vit qu'on le tirait par-dessus bord. Le canot s'éloigna, puis les deux embarcations matèrent leurs avirons et restèrent bord à bord sur l'eau étincelante de la crique. Pérol se releva. Ils avaient maintenant retrouvé leur homme. Mais peut-être persisterait-il à débarquer, puisque le capitaine de la corvette anglaise avait dû avoir d'abord quelque autre idée en tête. Cette incertitude ne dura pas longtemps. Pérol vit les avirons plonger dans l'eau, et en quelques minutes, les canots virant de bord disparurent l'un après l'autre derrière la pointe de la crique. « Voilà qui est fait !» murmura Pérol. « Je ne reverrai jamais ce stupide tête dure !» Il eut l'étrange impression que ces canots anglais avaient emporté avec eux quelque chose qui lui appartenait. non pas tant un homme qu'une part de sa propre vie. Il eut la sensation d'avoir repris contact avec les jours lointains de l'océan Indien. Il descendit rapidement vers le rivage, comme s'il voulait examiner l'endroit d'où Testadura avait quitté le sol de France. Il était pressé de retourner à la ferme et d'y rencontrer le lieutenant Réal, qui devait être revenu de Toulon. C'était aussi court pour lui de passer par la crique. Une fois en bas, il contempla le rivage désert et s'étonna d'éprouver comme une sensation de vide. En remontant vers l'endroit où s'amorçait le ravin, il aperçut un objet par terre. C'était une fourche. Il la regarda et se demanda « Comment diable cet objet est-il venu ici ?» Tellement étonné qu'il ne la ramassa pas tout d'abord. Une fois qu'il l'eut fait, il resta encore un moment immobile à réfléchir. Il ne pouvait l'associer qu'avec quelque agissement de Sévola, puisque c'était à lui qu'elle appartenait. Mais cela n'expliquait pas sa présence à cet endroit, à moins que... Se serait-il noyé, pensa Pérol, en regardant l'eau lisse et lumineuse de la crique. Elle ne pouvait lui fournir aucune réponse. Puis, l'ayant prise à bout de bras, il contempla sa trouvaille. À la fin, il secoua la tête, mit la fourche sur son épaule et, à lentes enjambées, continua sa route. Chapitre 14. La rencontre du lieutenant et de Pérol à minuit eut lieu dans un parfait silence. Pérol, assis sur le banc devant la salle, avait entendu des pas monter le chemin de Madrague bien avant que le lieutenant ne fût visible. Mais il ne fit pas le moindre mouvement. Il ne la regarda même pas. Le lieutenant, débouclant son ceinturon, s'assit sans prononcer une parole. La lune, seul témoin de cette rencontre, semblait éclairer deux amis si identiques de pensée et de sentiments qu'ils pouvaient s'entendre sans rien dire. Ce fut Pérol qui parla le premier. « Vous êtes à l'heure. » Ça a été toute une affaire de dénicher les gens et de faire timbrer le certificat. Les bureaux étaient fermés. L'amiral donnait un grand dîner, mais il est venu me parler quand on lui a transmis mon nom. Et tout le temps, voyez-vous, canonnier, je me demandais si je vous reverrais jamais de ma vie. Même une fois le certificat dans ma poche comme maintenant, je me le demandais encore. « Que diable pensiez-vous qui pouvait m'arriver ?» grommela Pérol sans conviction. Il avait jeté sous le banc la fourche mystérieuse et avec ses pieds, il la tâtait contre le mur. « Non, je me demandais si je reviendrais jamais ici. » Réal tira de sa poche une feuille de papier pliée en quatre et la posa sur le banc. Pérol la prit négligemment. Ce papier devait abuser les Anglais. Le lieutenant, après un moment de silence, reprit avec la sincérité d'un homme qui souffre trop pour dissimuler son trouble, « J'ai eu à soutenir un rude combat. »« C'était trop tard, » déclara Pérol. « Vous deviez revenir ici, ne fût-ce que par pudeur, et maintenant que vous voilà revenu, vous n'avez pas l'air particulièrement heureux. »« Ne vous occupez pas de quoi j'ai l'air, canonnier. Je n'ai plus la moindre hésitation. » Le lieutenant Réal enleva son chapeau pour essuyer son front moite. J'ai pris le parti de jouer moi-même le rôle du courrier. Comme vous l'avez dit vous-même, Pérol, c'est impossible d'acheter un homme. Je veux dire un homme de bonne foi. Il faut donc me trouver le navire et je me charge du reste. Dans deux ou trois jours, vous êtes moralement obligé de me confier votre tartane. Pérol ne répondit rien. Il songeait que Réal avait vu son signe, mais cela signifiait-il mourir de faim, languir à bord d'un ponton anglais ou quelque chose d'autre, on ne pouvait le dire. Cet officier n'était pas un homme à qui se fier, à qui raconter, par exemple, l'histoire de son prisonnier et ce qu'il en avait fait. À vrai dire, l'histoire était assez incroyable. L'Anglais qui commandait cette corvette n'avait aucune raison visible, concevable ou probable, d'envoyer une embarcation dans la crique plutôt qu'ailleurs. Pérol lui-même avait peine à croire que ce fût arrivé. Et il se disait... Si j'allais lui raconter cela, ce lieutenant me prendrait pour un misérable qui travaille d'intelligence avec les Anglais depuis Dieu sait combien de temps. Je ne pourrais pas le persuader que cela a été pour moi aussi imprévu que si la lune tombait du ciel. « Je me demande, dit-il tout à coup, sans élever la voix, ce qui a bien pu vous ramener si souvent ici. » Réal s'adossa au mur et, se croisant les bras, prit son attitude habituelle pendant leur nonchalant entretien. L'ennui, Pérol, répondit-il d'un ton vague. Un ennui terrible. Pérol, comme s'il eût été incapable de résister à la force de l'exemple, prit aussi la même pose et répondit « Vous avez l'air d'un homme qui ne se fait pas d'amis. » « C'est vrai, Pérol, je crois que oui. » « Quoi, pas le moindre ami? Pas même une petite amie ?» Le lieutenant Réal appuya sa tête contre le mur sans rien répondre. Pérol se leva. « Oh, alors, si vous disparaissiez pendant des années à bord d'un ponton anglais, personne ne s'en inquiéterait. Et si je vous donnais ma tartane, vous partiriez. Oui, je partirai tout de suite. » Pérol se mit à rire à haute voix en renversant la tête en arrière, mais son rire s'arrêta court et le lieutenant fut stupéfait de le voir chanceler comme s'il avait reçu un coup dans la poitrine. En donnant ainsi libre cours à son amère gaieté, l'écumeur de mer avait aperçu le visage d'Arlette à la fenêtre ouverte de la chambre du lieutenant. Il se laissa tomber lourdement sur le banc sans pouvoir articuler un mot. La surprise du lieutenant fut telle qu'il en détacha sa tête du mur et se mit à le regarder. Pérol se baissa et tira la fourche de dessous le banc. Puis il se leva et s'appuya dessus, tout en regardant Réal, qui, la tête levée, le considérait avec une surprise languissante. Pérol se demandait « Vais-je l'embrocher au bout de cette fourche et descendre ainsi le jeter à la mer ?» Il éprouva soudain une pesanteur dans les bras et dans le cœur qui lui rendait tout mouvement impossible. Ses membres raides et impuissants lui refusaient tout service. C'était à Catherine à veiller sur sa nièce. Il était sûr que la vieille femme n'était pas loin. Le lieutenant le vit absorbé à examiner soigneusement les dents de la fourche. Tout cela avait l'air très singulier. « Eh bien, Pérol, qu'y a-t-il ? » ne put-il s'empêcher de lui demander. « Je regardais, » répondit Pérol. « Une des dents est un peu ébréchée. J'ai trouvé cet instrument dans un endroit invraisemblable. » Le lieutenant le considérait avec curiosité. « Oui, je sais, elle était sous le banc. »« Hum, » dit Pérol, qui avait repris possession de lui-même. « C'est à ces voilà. » « Vraiment ?» dit le lieutenant en s'adossant de nouveau au mur. Son intérêt paraissait complètement épuisé, mais Pérol ne bougeait toujours pas. « Vous faites une figure d'enterrement, » remarqua-t-il soudainement d'une voix grave. « Ma foi, lieutenant, je vous ai entendu rire une ou deux fois, mais du diable si je vous ai jamais vu sourire. C'est à croire qu'on vous a ensorcelé quand vous étiez au berceau. » Le lieutenant Réal se leva comme mu par un ressort. « Ensorcelé, » répéta-t-il, très raide. « Au berceau, hein ? Non, je ne crois pas que ce fût si tôt que cela. » Le visage impassible, il s'avança droit sur Pérol, comme un aveugle. Surpris, celui-ci s'écarta et, tournant sur les talons, le suivit des yeux. Le lieutenant, comme attiré par un aimant, se dirigea vers la porte de la maison. Pérol, les yeux fixés sur le dos de Réal, le laissa presque atteindre la porte avant de dire avec hésitation « Dites-moi, lieutenant. » À son extrême surprise, Réal fit brusquement demi-tour, comme si on l'avait touché. « Ah oui, » répondit-il à mi-voix, « il faudra que nous discutions cette question demain. » Pérol, qui s'était avancé tout près de lui, murmura avec une intonation farouche « Discuter ? Non, il faut que la chose se fasse demain. » « Je vous ai attendu la moitié de la nuit pour vous le dire. » Le lieutenant fit un signe d'assentiment. Son visage avait une expression si impassible que Pérol se demanda s'il avait compris. Il ajouta « Ce n'est pas un jeu d'enfant. » Le lieutenant allait ouvrir la porte lorsque Pérol l'arrêta. « Un moment. » Le lieutenant se retourna en silence. « Michel dort quelque part sur l'escalier. Voulez-vous simplement le réveiller et lui dire que je l'attends dehors ? Nous passerons, lui et moi, le reste de la nuit à bord de la tartane et nous nous mettrons à l'ouvrage au lever du jour, pour la tenir prête à prendre la mer. Oui, lieutenant, à midi. Dans 12 heures, vous direz adieu à la belle France. » Les yeux du lieutenant Réal, qui le regardait par-dessus son épaule, avaient au clair de lune l'aspect vitreux et fixe des yeux d'un mort. Mais il entra. Pérol entendit aussitôt à l'intérieur quelqu'un s'ébranler dans le corridor, et Michel s'élança dehors, tête baissée après avoir trébuché un peu. Il se mit à se gratter la tête et à regarder de tous côtés, dans la clarté de la lune, sans apercevoir Pérol qui, à quelques pas de là, le regardait. À la fin, Pérol lui dit « Allons, réveille-toi, Michel. Michel !»« Voilà notre maître. « Regarde ce que j'ai ramassé, dit Pérolle. Va me ranger ça. » Michel ne montrait aucun empressement à toucher la fourche que lui tendait Pérolle. « Qu'est-ce que tu as ? » demanda Pérolle. « Rien, rien. Seulement la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur l'épaule de Cévola. » Il regarda vers le ciel. « Il y a un peu plus d'une heure. » Que faisait-il ? Il traversait la cour pour aller la ranger. « Eh bien, toi, va maintenant dans la cour la ranger, » lui dit Pérolle, « et ne traîne pas. » Il attendit la main sur le menton jusqu'à ce que son compagnon reparût devant lui. Mais Michel n'était pas revenu de sa surprise. « Il allait se coucher, vous savez, » dit-il. « Eh bien quoi, il allait. Il n'est pas allé dormir dans l'écurie par hasard. Cela lui arrive quelquefois, tu sais. » « Je sais, j'ai regardé, il n'y est pas, » dit Michel tout à fait réveillé maintenant et les yeux ronds. Pérolle se mit en route vers la crique. Après avoir fait deux ou trois pas, il se retourna et vit Michel encore immobile à l'endroit où il l'avait laissé. « Allons, » s'écria-t-il, « il faut que nous tenions la tartane prête à prendre la mer au lever du jour. » Debout, dans la chambre du lieutenant, près de la fenêtre ouverte, Arlette écouta leurs voix et leurs bruits de pas diminuer en descendant la pente. Avant que ce bruit ne se fût tout à fait dissipé, elle entendit un pas léger qui s'approchait de la porte de la chambre. Comme il venait de quitter Pérolle et monter l'escalier, Réal sentit que son endurance était absolument à bout. Tout ce qu'il désirait, c'était d'être seul. En traversant le corridor sombre, il remarqua que la porte de la chambre de Catherine était restée ouverte. Mais cela n'attira pas son attention. Il était dans un état presque complet d'insensibilité. En mettant la main sur la poignée de la porte de sa chambre, il se prit à dire « Ce sera bientôt fini ». Il était si exténué qu'il avait de la peine à tenir sa tête droite et, en entrant, il ne vit pas Arlette, debout contre le mur, à côté de la porte, mais dans le coin le plus sombre de la pièce. Il ne s'aperçut de la présence de quelqu'un dans la chambre que lorsqu'elle passa près de lui avec un très léger bruit. Il fit deux pas en arrière et entendit derrière lui tourner la clé dans la serrure. Si la maison était tombée en ruine en le précipitant sur le sol, il n'aurait pas été plus accablé, ni en quelque sorte plus privé de tous ses sens. Il reprit d'abord le sens du toucher lorsqu'Arlette s'empara de sa main. Il retrouva Louis ensuite. Elle lui murmurait à l'oreille « Enfin, enfin !»« Mais comme vous êtes imprudent !» « Si Cévola avait été dans cette chambre à ma place, vous seriez mort maintenant. Je l'ai vu à l'œuvre. » Il sentait sur sa main une pression significative, mais il ne pouvait la voir convenablement, quoiqu'il la sentît tout proche, de toutes les fibres de son corps. « Ce n'était pas hier, il est vrai, » ajouta-t-elle à voix basse. Puis tout à coup, « Venez à la fenêtre que je vous regarde, » dit-elle. Le clair de lune faisait sur le plancher un grand carré de lumière. Il se laissa mener comme un petit enfant. Elle s'empara de son autre main qui pendait à son côté. Il était complètement rigide, et il ne lui semblait pas qu'il respirait. Elle le regardait de tout près, son visage un peu au-dessous du sien, en murmurant doucement « Eugène, Eugène !» Et tout à coup, l'immobilité livide de son visage effraya la jeune femme. « Vous ne dites rien. Vous avez l'air malade. Qu'y a-t-il ? Êtes-vous blessé ?» Elle abandonna les mains insensibles du jeune homme et le tâta pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Elle lui retira même son chapeau, qu'elle jeta au loin dans sa hâte à s'assurer que sa tête était indemne. Une fois persuadée qu'il n'avait aucun mal, elle se calma comme une personne raisonnable. Les mains passées autour de son cou, elle se recula un peu. Ses petites dents égales étincelaient, ses yeux noirs, d'une immense profondeur, plongeaient dans les siens, non pas avec un transport de passion ou de crainte, mais avec une sorte de paisible satisfaction, avec une expression pénétrante de possession. Il revint à lui en poussant une exclamation sourde d'inquiétude. Il se sentait aussi affreusement en danger que si, sur une haute pointe, le tumulte des vagues dans les oreilles, il eût craint d'écarter les doigts, de la voir tomber et de la perdre à jamais. Il lui passa le bras autour de la taille et la serra contre lui. Dans le grand silence, dans cet étincelant clair de lune qui tombait par la fenêtre, ils restèrent ainsi longtemps, longtemps. Ils regardaient la tête d'Arlette posée sur son épaule. Elle avait les yeux fermés et l'expression de son calme visage était celle d'un rêve délicieux, de quelque chose d'infiniment éthéré, de paisible et pour ainsi dire d'éternel. Sa séduction lui pénétrait le cœur d'une douceur aiguë. « Elle est exquise, c'est un miracle, » pensait-il avec une sorte de terreur. « C'est impossible. » « Tout cela est très bien, » fit-elle d'un ton tout à fait naturel. « Mais il va falloir songer aux moyens de partir d'ici. »« Je ne veux pas dire maintenant, » ajouta-t-elle, en se rendant compte de son étonnement. « C'est voilà à soif de votre sang. » Elle retira l'une de ses mains pour montrer du doigt le mur du fond et baissant la voix. « Il est là, vous savez, » dit-elle. « Ne vous fiez pas à Pérol non plus. Je vous regardais tous les deux dehors. Il a bien changé. Je ne peux plus me fier à lui. » Le murmure de sa voix vibrait dans la pièce. « Lui et Catherine sont étranges. Je ne sais ce qu'il leur est arrivé. Il ne me parle pas. Quand je m'assieds près de lui, il me tourne le dos. » Elle sentit Réal trembler sous ses mains. Inquiète, elle s'arrêta et lui dit « Vous êtes fatigué ?» Et comme il ne bougeait pas, elle le conduisit elle-même à une chaise, l'obligea à s'y asseoir et se mit sur le plancher à ses pieds. Elle appuya la tête contre ses genoux et prit une de ses mains. Elle poussa un soupir. « Je savais bien que cela arriverait, » dit-elle à voix basse. « Mais j'ai été surprise. »« Ah, vous saviez que cela arriverait ? » répéta-t-il faiblement. « Oui, j'avais prié pour cela. »« Avez-vous jamais imploré quelque chose, Eugène ? » demanda-t-elle en appuyant sur son nom. « Pas depuis que j'étais enfant, » répondit Réal d'un air sombre. « Oh oui, on a prié pour vous aujourd'hui. Je suis descendu à l'église. » Réal pouvait à peine en croire ses oreilles. « L'abbé m'a laissé entrer par la porte de la sacristie. Il m'a dit de renoncer au monde. J'étais prête à renoncer à tout pour vous. » Réal, en se tournant vers la partie la plus sombre de la pièce, semblait voir le spectre de la fatalité qui attendait le moment de s'avancer et de détruire cette calme et confiante joie. Il écarta la terrible vision, éleva la main de la jeune femme jusqu'à ses lèvres et y posa un long baiser, puis demanda « Ainsi, vous saviez que cela arriverait ? Tout cela, oui ? Et de moi, que pensiez-vous ? » Elle pressa fortement la main qu'elle n'avait cessé de tenir tout ce temps. « Je pensais ceci. Mais que pensiez-vous de ma conduite parfois ? « Voyez-vous, je ne savais pas ce qui arriverait, moi. J'avais peur, » ajouta-t-il à demi-voix. « Votre conduite ? Quelle conduite ? Vous veniez, vous partiez. Quand vous n'étiez pas là, je pensais à vous. Et quand vous étiez là, je vous regardais tant que je pouvais. Je vous dis que je savais ce qui arriverait. Je n'avais pas peur. Vous alliez et veniez, souriante, murmura-t-il, comme on parlerait d'une inconcevable merveille. « J'avais chaud, j'étais calme, » murmura Arlette, comme si elle eût atteint les limites du rêve. De tendres murmures sortaient de ses lèvres et révélaient un état de bienheureuse tranquillité dans des phrases qui semblaient absurdes, incroyables même, et qui pourtant semblaient convaincre et apaiser la conscience de Réal. « Vous étiez parfait, » continua-t-elle. « Chaque fois que vous vous approchiez de moi, tout semblait différent. »« Que voulez-vous dire ? En quoi différent ?» Entièrement. La lumière, les pierres même de la maison, les collines, les fleurs parmi les rochers. C'est seulement les gens. » Sa voix tomba sur une note incertaine. Réal sentit que cette vague d'enchantement avait passé par-dessus sa tête, plus rapide que la mer, laissant des étendues d'un sable aride. Un frisson lui vint à la racine des cheveux. « Quelle sorte de gens ? » demanda-t-il. « Ils sont si changés. » « Écoutez, cette nuit, tandis que vous étiez partis, pourquoi êtes-vous partis ? Je les ai surpris tous les deux dans la cuisine, qui ne se disaient rien l'un à l'autre. Ce Pérol, il est terrible !» Il fut frappé de son intonation de terreur, de sa profonde conviction. Il ne pouvait pas savoir que ce Pérol, imprévu, inattendu, inexplicable, avait, rien qu'en survenant à Escampobar, donné un élan moral et même physique à Arlette, qu'il était pour elle une figure immense, comme un messager de l'inconnu, entrant dans la solitude d'Escampobar. Une puissance immense, dont le pouvoir était inépuisable, que la familiarité n'atteignait pas et qui demeurait invincible. « Il ne voudra rien dire, il ne voudra rien entendre. Il peut faire ce qu'il veut. »« Vraiment ? » murmura Réal. Elle se redressa hocha la tête à plusieurs reprises, comme pour affirmer qu'il ne pouvait y avoir le moindre doute là-dessus. « A-t-il lui aussi soif de mon sang ?» demanda amèrement Réal. « Non, non, ce n'est pas cela. Vous pouvez vous défendre. Je peux veiller sur vous. J'ai veillé sur vous. L'autre nuit, j'ai cru entendre des bruits dehors et je suis descendu. J'avais peur pour vous. Votre fenêtre était ouverte et je n'ai pu voir personne. Et pourtant, j'ai l'impression... Non, ce n'est pas cela. C'est pire. Je ne peux pas savoir ce qu'il veut faire. Je ne peux m'empêcher de l'aimer, mais je commence maintenant à avoir peur de lui. Quand il est arrivé ici, que je l'ai vu, il était exactement le même. Ses cheveux n'étaient pas si blancs. Fort, tranquille. Il me semble que quelque chose s'agitait dans ma tête. Il était aimable, vous savez. J'avais envie de lui sourire. C'était comme si je le reconnaissais. Je me suis dit, le voilà, c'est bien lui. Et quand je suis venu, demanda Réal avec un sentiment d'épouvante. Vous, je vous attendais, dit à la voix basse, surprise de cette question, mais sans cesser pourtant de penser à l'attitude mystérieuse de Pérol. Oui, je les ai surpris la nuit dernière, lui et Catherine, dans la cuisine, se regardant tous deux et tranquilles comme des souris. Je lui ai dit que je ne supporterais plus qu'il me donne d'ordre. Oh, mon chéri, n'écoutez pas Pérol, ne le laissez pas. En s'appuyant légèrement sur le genou de Réal, elle se leva. Réal en fit autant. « Il ne peut rien me faire, marmotta-t-il. Ne lui dites rien. On ne peut deviner ce qu'il pense, et maintenant je ne sais même pas ce qu'il veut dire quand il parle. C'est comme s'il connaissait un secret. » Elle mit dans ses mots un tel accent que Réal s'en sentit ému presque jusqu'aux larmes. « Bien, bien, je serai prudent, dit-il. Et Catherine, est-elle aussi dangereuse ?» À la clarté de la lune, Arlette, dont le cou et la tête émergeaient du fichu étincelant, se mit à lui sourire et se rapprocha de lui. « Pauvre tante Catherine, dit-elle, passez votre bras autour de moi, Eugène. Elle ne peut rien. Elle ne me quittait pas des yeux. Elle croyait que je ne le remarquais pas, mais je le voyais. Et maintenant on dirait qu'elle ne peut pas me regarder en face. Pérol non plus. Il me suivait toujours des yeux. Souvent je me suis demandé pourquoi il me regardait comme cela. Pouvez-vous me le dire, Eugène ? Mais tout est changé maintenant. Oui, tout est changé, dit Réal, d'un ton qu'il s'efforça de rendre aussi dégagé que possible. Catherine sait-elle que vous êtes ici ? Quand nous sommes montés ce soir, je me suis étendu sur mon lit tout habillé, et elle s'est assise sur le sien. La chandelle était éteinte, mais à la clarté de la lune, je pouvais la voir parfaitement, les mains sur les genoux. Lorsqu'il m'a été impossible de rester davantage immobile, je me suis simplement levé, et je suis sorti de la chambre. Elle était toujours assise au pied de son lit. Tout ce que j'ai fait, ça a été de mettre un doigt sur mes lèvres, alors elle a baissé la tête. Je ne crois pas avoir tout à fait fermé la porte. Tenez-moi plus fort, Eugène, je suis lasse. C'est étrange, vous savez. Autrefois, il y a longtemps, avant que je vous eusse jamais vu, je ne me reposais jamais et je n'étais jamais fatigué. Son murmure s'interrompit tout à coup, et elle leva le doigt pour lui recommander le silence. Elle prêta l'oreille. Réal aussi, il ne savait pas pourquoi. « Elle est là !» murmura Arlette en se levant sur la pointe du pied pour se hausser jusqu'à son oreille. « Elle a dû vous entendre passer. »« Où est-elle ? » demanda Réal du même ton mystérieux. « De l'autre côté de la porte. » Elle a dû écouter le murmure de nos voix, lui susurra Arlette dans l'oreille, comme si elle lui disait quelque chose d'extraordinaire. On entendit une voix tremblante prononcer le mot « Arlette ». Catherine, qui avait écouté leur murmure, n'avait pu supporter ce long silence. Ils entendirent sa voix tremblante aussi distinctement que si elle eût été dans la pièce. Réal eut l'impression que cela lui sauvait la vie. Ils se séparèrent silencieusement. « Va-t'en !» cria Arlette. « Arles ! Va-t'en !» cria Arlette. « Arles ! Tais-toi » cria-t-elle plus fort. « Tu n'y peux rien. »« Arlette !» cria à travers la porte la voix tremblante sur un ton de commandement. « Elle va réveiller ses volas !» dit doucement Arlette à Réal. Et ils attendirent tous les deux des bruits qui ne vinrent pas. Arlette montra du doigt le mur. « Il est là, vous savez. »« Il dort !» murmura Réal. Mais la pensée « Je suis perdu » qu'il formulait dans son esprit ne se rapportait pas à ses volas. « Il a peur !» dit Arlette à mi-voix, avec une intonation méprisante. Mais cela ne veut rien dire. Parfois, elle tremble de terreur, et le moment d'après, il est capable de courir assassiné. Lentement, comme attiré par l'irrésistible autorité de la vieille femme, il s'était rapproché de la porte. Réal, dans l'éclair soudain de la passion, pensait « Si elle ne s'en va pas maintenant, je n'aurai pas la force de me séparer d'elle demain matin. » Il n'avait pas devant les yeux l'image de la mort, mais celle d'une longue et intolérable séparation. Un soupir qui avait presque l'accent d'un gémissement leur parvint à travers la porte, et l'atmosphère autour d'eux s'emplit d'une tristesse contre laquelle les clés et les serrures ne pouvaient rien. « Vous feriez mieux d'aller la rejoindre, » murmura-t-il d'un ton pénétrant. « Bien sûr, j'y vais, » dit Arlette, un peu émue. « Pauvre Catherine, chacune de nous n'a que l'autre au monde. Mais je suis la fille des maîtres ici. Elle doit faire ce que je lui dis. » Tout en gardant l'une de ses mains sur l'épaule de Réal, elle colla sa bouche contre la porte et dit distinctement « Je viens tout de suite. Retourne à ta chambre et attends-moi. » Comme si elle était sûre d'être obéie. Un profond silence régna. Peut-être Catherine était-elle déjà partie. Réal et Arlette restèrent immobiles un moment, comme s'ils avaient été l'un et l'autre changés en pierre. « Allez, maintenant !» fit Réal d'une voix rauque, à peine distincte. Elle lui donna un rapide baiser sur les lèvres, et de nouveau ils restèrent comme des amants enchantés, immobilisés par un sortilège. « Si elle reste, » pensait Réal, « je n'aurai jamais le courage de m'arracher, et il faudra que je me fasse sauter la cervelle. » Mais quand enfin elle fit un mouvement, il la retint comme si elle avait été sa vie même. Quand il la laissa aller, il fut épouvanté d'entendre un léger rire, témoignage de sa secrète joie. « Pourquoi riez-vous ? » demanda-t-il d'un air effrayé. Elle s'arrêta et, le regardant par-dessus son épaule, lui répondit « Je riais en pensant à tous les jours à venir. Des jours et des jours. Y avez-vous pensé ?»« Oui, » bégaya Réal comme un homme frappé au cœur en tenant la porte entrouverte. Il était heureux d'avoir quelque chose à quoi se retenir. Elle sortit avec le doux bruissement de sa robe de soie, mais avant qu'il eût refermé la porte sur elle, elle étendit le bras derrière elle. Il eut juste le temps de presser de ses lèvres la paume de sa main. Elle était froide. Elle la retira, et il eut la force de fermer la porte. Il se sentait comme un homme enchaîné à un mur et mourant de soif, dont on éloignerait un breuvage frais. La pièce était tout à coup devenue obscure. « Un nuage passe sur la lune, » pensa-t-il. « Un nuage, un énorme nuage. » Et il s'avança d'un pas raide vers la fenêtre, en chancelant comme s'il marchait sur une corde raide. Il aperçut la lune dans un ciel où il n'y avait pas la moindre trace de nuage. « Je suppose, se dit-il, que je viens presque de mourir. Mais non, » continua-t-il avec une pensée froidement cruelle, « mais non, je ne mourrai pas. Je vais seulement souffrir, souffrir, souffrir. » Souffrir, souffrir, ce ne fut qu'en butant contre le lit qu'il s'aperçut qu'il s'était éloigné de la fenêtre. Il se jeta violemment sur le lit, enfonçant la tête dans l'oreiller qu'il mordit pour étouffer le cri de détresse qui lui montait aux lèvres. Les natures d'ordinaire insensibles, une fois débordées par une passion maîtresse, sont comme des géants vaincus, tout prêts à désespérer. Ainsi donc, lui, officier en service commandé, il reculait devant la mort, et ce doute entraînait avec lui tous les doutes possibles sur son propre courage. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il serait parti le lendemain matin. Il frissonna de tous ses membres, puis resta immobile, serrant des deux mains les draps pour résister à l'envie de fuir dans un mouvement de panique. Il se disait « Il faut que je m'étende et que je me repose pour avoir assez de force demain. Il faut que je me repose. » Tandis que le terrible combat qu'il soutenait pour rester immobile inondait son front de sueur. À la fin, un oubli soudain dut s'emparer de lui, car il se retourna et se releva, tandis que le son du mot « écouter » remplissait ses oreilles. Une faible lumière, étrange et froide, remplissait la chambre. Une lumière dont il ne lui semblait pas avoir jamais vu auparavant l'appareil, et au pied de son lit se tenait une forme en vêtements noirs, un châle noir sur la tête, avec un visage décharné et avide, des trous sombres à la place des yeux, silencieuse, immobile, implacable. « Est-ce la mort ?» se demanda-t-il, en la regardant fixement, terrifié. Cela ressemblait à Catherine. Il entendit encore le mot « Écoutez ». Il détourna les yeux et, baissant son regard, s'aperçut qu'il avait ouvert son vêtement sur sa poitrine. Il ne voulait pas regarder cette apparition, quelle qu'elle fût, spectre ou vieille femme, et il répondit « Oui, je vous entends ». « Vous êtes un honnête homme », c'était la voix impassible de Catherine. « Le jour se lève, il faut partir ». « Oui, » dit-il sans lever la tête. « Elle dort », reprit la forme qui ressemblait à Catherine. « Elle est épuisée, et il faudrait la secouer pour la réveiller. Il faut que vous partiez. « Vous le savez, » continuait cette voix inflexiblement. « C'est ma nièce, et vous savez qu'elle porte la mort dans les plis de sa robe et qu'elle a les pieds dans le sang. Elle n'est pas faite pour un homme. » Réal éprouvait toute l'angoisse de quelque aventure surnaturelle. Cette chose qui ressemblait à Catherine et parlait comme un destin cruel, il lui fallait la regarder en face. Il leva la tête dans cette lumière qui lui semblait épouvantable et ne pas appartenir à ce monde. « Écoutez-moi bien, vous aussi, » dit-il. Quand elle aurait sur les épaules toute la folie du monde et les péchés de tous les assassins de la Révolution, je la serrerai encore contre mon cœur. Comprenez-vous ? L'apparition qui ressemblait à Catherine abaissa et releva lentement sa tête encapuchonnée. Il fut un temps où j'aurais serré l'enfer même contre mon cœur. Il est parti. Il avait ses vœux. Vous n'avez que votre honnêteté. Vous partirez. J'ai mon devoir, dit le lieutenant Réal d'un ton mesuré, comme calmé par l'excès d'horreur que la vieille femme lui inspirait. Partez sans la déranger, sans la regarder. Je prendrai mes souliers à la main, dit-il. Il poussa un profond soupir. Il se sentait assoupi. Il est très tôt, murmura-t-il. Pérol est déjà descendu au puits, déclara Catherine. Que peut-il bien y faire tout ce temps? Ajouta-t-elle d'une voix troublée. Réal, qui avait posé maintenant les pieds sur le plancher, lui jeta un regard à la dérobée. Mais elle s'éloignait déjà furtivement, et quand il regarda de nouveau, elle avait disparu et la porte était fermée. Chapitre 15. Une fois descendue, Catherine vit Pérol encore occupé près du puits. Il regardait dedans, semblait-il, avec un extrême intérêt. « Votre café est prêt, Pérol !» lui cria-t-elle du seuil de la porte. Il se retourna brusquement comme un homme pris à l'improviste et s'approcha en souriant. « Voilà une agréable nouvelle, mademoiselle Catherine, » dit-il. « Vous voilà descendue de bien bonne heure. »« Oui, » dit-elle, « mais vous aussi, Pérol. Michel est-il là ? Dites-lui de venir aussi prendre un peu de café. » Michel est à la tartane. Vous ne savez peut-être pas qu'elle va faire un petit voyage. Il avala une gorgée de café et mordit dans sa tranche de pain. Il avait faim. Il était resté debout toute la nuit et avait même eu, pendant ce temps, une conversation avec le citoyen Cévola. Il avait aussi travaillé dès l'aube avec Michel. À vrai dire, il n'y avait pas eu grand-chose à faire, car la tartane était toujours prête à prendre la mer. Aussi, après avoir remis sous clé le citoyen Cévola, fort inquiet de ce qui allait advenir de lui, mais qu'il laissa dans cet état d'incertitude, Pérol était-il revenu à la ferme. Il était monté à sa chambre, y était resté un moment, puis redescendant furtivement, était allé au puits, auprès duquel Catherine, levée plus tôt qu'il ne pensait, l'avait aperçu avant d'entrer dans la chambre du lieutenant Réal. Tout en prenant son café, il écouta, sans manifester la moindre surprise, Catherine s'étonnait de la disparition de Cévola. Elle était allée regarder dans son galetas. Il n'y avait pas dormi, elle en était sûre. Et on ne l'apercevait nulle part, pas même dans le champ le plus éloigné, de tous les endroits d'où l'on découvrait les abords de la ferme. Il était inconcevable qu'il eût été jusqu'à Madrague, où il détestait aller, ni jusqu'au village, où il avait peur de se montrer. Pérol déclara qu'en admettant qu'il lui fût arrivé quelque chose, ce ne serait pas en tout cas une grande perte. Mais Catherine ne s'en montra pas tranquillisée. « Cela m'effraie, dit-elle. Il est peut-être allé se cacher quelque part pour faire un mauvais coup à quelqu'un. Vous me comprenez, Pérol ?»« Ma foi, le lieutenant n'aura plus rien à craindre, puisqu'il s'en va. Quant à moi, Cévola et moi, nous sommes très bons amis. J'ai eu une longue conversation avec lui, il n'y a pas longtemps. Vous pouvez toutes les deux vous entendre fort bien avec lui. Et puis, qui sait, peut-être qu'il est parti pour de bon. » Catherine le regarda avec effarement, si l'on peut appliquer ce mot à un regard de profonde contemplation. « Le lieutenant n'a rien à craindre de lui, répéta-t-elle avec hésitation. « Non, il s'en va. Vous ne le saviez pas ?» La vieille femme continuait à le regarder attentivement. « Oui, il part en mission. » Catherine resta encore un moment silencieuse, conservant la même attitude contemplative. Puis elle triompha de son hésitation. Elle ne put résister au désir de mettre Pérol au courant des événements de la nuit. Pérol en oublia son bol de café à moitié plein et sa tranche de pain entamée. La voix de Catherine gardait un accent austère. Elle était debout, imposante et solennelle, comme une prêtresse. Il ne lui fallut pas grand temps pour raconter cette aventure dont son âme avait été secouée, et elle termina par ces mots « Le lieutenant est un honnête homme ». Et au bout d'un moment, elle répéta « Il n'y a pas à le nier, il a agi comme un honnête homme ». Pérol continua un moment à regarder le café au fond de son bol, puis brusquement se leva avec une telle violence que la chaise s'en renversa derrière lui sur le plancher carrelé. « Où est-il, cet honnête homme ? » cria-t-il soudain d'une voix de tonnerre, qui non seulement fit lever les bras à Catherine, mais qui l'effraya lui-même, et reprenant sur le champ un ton simplement résolu, « Où est-il, cet homme ? J'ai besoin de le voir. » L'attitude erratique de Catherine en fut troublée. « Qu'y a-t-il » dit-elle, l'air véritablement stupéfaite. « Il va descendre tout de suite. Voilà son bol de café. » Pérol allait sortir de la cuisine quand Catherine l'arrêta. « Au nom du ciel, monsieur Pérol, » dit-elle, d'un ton à la fois de prière et de commandement, « ne réveillez pas l'enfant. Laissez-la dormir. Oh, laissez-la dormir. Ne la réveillez pas. Dieu sait depuis combien de temps elle n'a pas fait une bonne nuit. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ose pas y penser. » Elle fut interloquée d'entendre Pérol déclarer « Tout cela est parfaitement absurde. » Mais il se rassit, sembla tout à coup apercevoir le bol de café et vida ce qui y restait. « Je ne veux pas la voir redevenir plus folle qu'elle n'était, » fit Catherine avec une sorte d'exaspération, mais en baissant pourtant la voix. Sous sa forme égoïste, cette phrase exprimait une réelle et profonde compassion pour sa nièce. Elle appréhendait le moment où cette fatale Arlette s'éveillerait et où l'on se retrouverait en face des terribles complications que son sommeil avait un moment suspendu. Pérol s'agita sur son siège. « Ainsi, il vous a dit qu'il partait ? Il vous l'a vraiment dit ? » demanda-t-il. « Il a promis de partir avant que l'enfant ne s'éveille, immédiatement. »« Mais sacré nom d'un chien ! Il n'y a pas de vent avant 11 heures !» s'écria Pérol d'un air profondément irrité, tout en s'efforçant de maîtriser sa voix, tandis que Catherine, indulgente à ses changements d'humeur, se contentait de serrer les lèvres et de hocher la tête pour le calmer. « C'est impossible de travailler avec des gens comme cela, » marmonna-t-il. « Est-ce que vous savez, monsieur Pérol, qu'elle est allée voir le curé ?» dit tout à coup Catherine, qui se tenait au bout de la table. Les deux femmes avaient eu une conversation avant que la tante fût parvenue à décider Arlette à se coucher. Pérol fit un geste de surprise. « Quoi ? Quel curé ? Dites-moi, Catherine, » continua-t-il avec une fureur contenue, « est-ce que vous vous imaginez que tout cela m'intéresse le moins du monde ? Je ne peux penser à rien d'autre qu'à ma nièce. Chacune de nous n'a que l'autre au monde, » continua-t-elle avec les mêmes mots dont Arlette s'était servie pour réal. Elle avait l'air de penser tout haut, mais elle remarqua que Pérol l'écoutait avec attention. Il avait l'intention de la séparer de nous tous. La vieille femme joignit ses mains maigres d'un geste brusque. « Je suppose qu'il y a encore des couvents dans le monde. »« Vous, la patronne, vous êtes absolument folle, » déclara Pérol. « Tout cela montre qu'elle a un ce curé. »« Je ne m'y connais pas beaucoup dans ces choses-là, quoique j'ai vu des nonnes dans mon temps, et même d'assez étranges. Mais il me semble qu'on ne prend généralement pas de fous dans les couvents. N'ayez pas peur, c'est moi qui vous le dis. » Il s'arrêta car la porte du fond venait de s'ouvrir et le lieutenant réal entra. Son épée pendait à son avant-bras par le ceinturon. Il avait son chapeau sur la tête. Il laissa tomber à terre sa petite valise et il s'assit sur la chaise la plus rapprochée pour chausser les souliers qu'il tenait à la main. Puis il s'approcha de la table. Pérol, qui n'avait pas cessé de le regarder, pensait « En voilà un qui a l'air d'un chat écorché !» Réal avait les yeux caves, les joues creuses et toute la figure comme desséchée. « Eh bien, vous voilà dans un joli état pour entreprendre de tromper l'ennemi, » remarqua Pérol. Ma foi, rien qu'à vous voir, personne ne croirait un mot de ce que vous pourriez dire. Vous n'allez pas tomber malade, j'espère. Vous êtes en service commandé. Vous n'avez pas le droit d'être malade. Dites-moi, mademoiselle Catherine, donnez-moi donc la bouteille. Vous savez, ma bouteille. » Il arracha la bouteille de la main de Catherine, versa du cognac dans le café du lieutenant, poussa le bol vers lui et attendit. « Nom de nom !» fit-il avec force. « Vous ne savez pourquoi c'est fait ? C'est fait pour boire !» Réal obéit avec une docilité étrange, automatique. « Et maintenant, dit Pérol en se levant, je monte chez moi à me raser. C'est un grand jour, le jour où nous assistons au départ du lieutenant. » Réal, jusqu'alors, n'avait pas prononcé un mot, mais dès que la porte se fut refermée derrière Pérol, il releva la tête. « Catherine, dit-il, et sa voix raclait dans sa gorge. » Elle le regarda fixement et reprit, « Écoutez-moi, quand elle découvrira que je suis parti, vous lui direz que je vais revenir bientôt, demain, toujours demain. »« Oui, mon bon monsieur, » fit Catherine, d'une voix impassible, mais en serrant convulsivement ses mains. « Je n'oserais rien lui dire d'autre. » « Elle vous croira, » murmura farouchement Réal. « Oui, elle me croira, » répéta Catherine d'un ton lugubre. Réal se leva, passa son ceinturon par-dessus sa tête et s'empara de sa valise. Une légère rougeur vint colorer ses joues. « Adieu, » dit-il à la vieille dame silencieuse. Elle ne répondit rien, mais au moment où il se détournait pour partir, elle leva un peu la main, hésita et la laissa retomber. Il lui sembla que la colère divine condamnait les femmes d'Escampobar à rester célibataires. Sa nièce lui apparaissait comme le bouc émissaire de tous les meurtres et de toutes les horreurs de la Révolution. Elle-même aussi avait été privée de la grâce de Dieu. Mais il y avait bien longtemps de cela. Depuis lors, elle avait fait sa paix avec le ciel. Elle leva de nouveau la main et cette fois fit en l'air le signe de la croix dans le dos du lieutenant Réal.